VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir et bienvenue à l'édition du vendredi 18 septembre 2015. Actualité oblige, nous consacrerons un segment spécial au Burkina Faso. Les États-Unis qui ont condamné le coup d'État du 17 septembre espèrent que les alliés de la région feront pression pour que le processus électoral soit remis sur pied au Burkina Faso. En effet, plusieurs leaders africains ont fait le déplacement à Ouagadougou pour chercher une issue à la crise.
Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce soir à Ouagadougou.
Nous aurons les précisions de notre correspondant Zoumana Wonogo. Sur place, les militaires du RSP font tout pour dissuader les Burkinabés qui tentent de manifester contre le putsch. Ailleurs, sur le continent, Yaoundé réagit à un rapport d'Amnesty International sur les violations des droits de l'homme durant la lutte contre Boko Haram.
Nous disons que là, vous exagérez. Parce que nos forces, nos militaires, avant d'aller au front, ils reçoivent d'abord une éducation, ils reçoivent des cours sur la protection des droits de l'homme.
Le ministre camerounais de la communication, Issa Tchiroma. Nous reviendrons aussi sur la crise des migrants en Europe. Et nous aurons également donc le journal.
L'actualité est encore dominée par la crise au Burkina Faso, où le général de brigade Gilbert Diendéré a pris le pouvoir dans un coup d'État. Les derniers éléments de l'actualité avec Issa Napon à Ouagadougou. On essaie d'entrer en contact avec Issa Napon. On le fera tout à l'heure. En attendant, disons que le président sénégalais Macky Sall, dirigeant un exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et son homologue béninois Thomas Boni Yayi se trouvent actuellement dans la capitale burkinabé. Il devrait s'entretenir ce soir avec le général Diendéré sur la visite de ses dirigeants de la région. Nous avons parlé à Zoumana Wonogo.
Oui, le président de la CEDEAO, le président sénégalais Macky Sall, est arrivé ce soir à Ouagadougou avec en compagnie du président béninois Yayi Boni qui a été désigné comme médiateur pour les élections au Burkina Faso, médiateur ou facilitateur pour les élections au Burkina Faso. Donc ces deux autres personnalités ont déjà commencé déjà les rencontres d'échange. Ils ont déjà reçu l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, Monseigneur Paul Ouédraogo, qui est le président de la Commission de réconciliation nationale, et le chef d'état-major général de l'armée. Et j'ai déjà échangé avec les deux présidents. Maintenant, le programme est assez long et assez contraignant parce qu'il rencontre un à un les différentes composantes de la société politico-sociale au Burkina et ensuite. Ils vont rencontrer en toute dernière position le président du CNT, le général Gilbert Diendéré.
Sur le plan diplomatique, êtes-vous au courant d'autres initiatives en cours maintenant afin de trouver une issue à cette crise au Burkina?
Oui, il faut avouer que dès leur arrivée, les deux présidents ont rencontré l'ambassadeur des États-Unis en compagnie de celui de la France et de l'Union européenne. Ce sont ces trois personnalités-là qui ont fait un briefing d'abord de toute la situation comme elle vit ici avec les deux présidents avant que la rencontre avec les composantes du Kirabé ne commence.
Selon certaines nouvelles, Washington espère que les alliés de la région vont faire pression sur le nouvel homme fort du Burkina pour que le processus de transition soit remis en place. Qu'en savez-vous?
Oui, des échanges avec les diplomates et autres ici, il n'y a pas d'autre alternative. C'est la remise sur rail de la transition. Et quand j'ai demandé à un qu'est-ce que cela voudrait bien signifier, cela signifierait le retour dans ses fonctions du président Michel Kafando, le maintien même de la date des élections qui est le 11 octobre. Donc tout cela doit pouvoir trouver solution dans les 72 heures, puisque la campagne commence normalement ce dimanche-là, le 20.
Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Voilà, et pour un autre point sur la situation, nous avons Issa Napon près du palais présidentiel. Bonsoir Issa.
Oui, bonsoir. Nous sommes en ce moment non loin du palais présidentiel de Kossiam, où les conciliabules ont commencé depuis cet après-midi. Il faut dire que les deux présidents, Yahya Boni et Macky Sall, sont arrivés, où ils devaient rencontrer d'abord les sages en premier lieu, et puis les OSC et les représentants du Conseil national de la transition. Alors, la rencontre avec les sages s'est achevée déjà. Il y avait donc Mgr Paul Ouedraogo, qui est le président de la Commission nationale de la réconciliation et des réformes politiques. Il y avait Jean-Baptiste Ouedraogo, ancien président du Burkina Faso. Mais il y avait également à leur côté le général Tengue Mama Zagré. Lui, il est le chef d'état-major général des armées. Et donc, il faut dire que rien n'a filtré de cette rencontre avec les deux présidents. Quand ils ont fini, ils sont sortis directement, ils se sont engouffrés à la surprise générale dans leur véhicule et aucun journaliste n'a pu les rattraper. Ils sont tout de suite partis en trombe. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une rencontre qui est en cours et qui risque de durer fort. Il s'agit de la rencontre entre les OSC avec les deux présidents, mais également une rencontre prévue avec les représentants du CNT, le Conseil national de la transition. Et leur mot d'ordre a été clair, c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel normal. Ils demandent tous d'une voix à ce que donc, la dynamique de la transition soit restaurée, que le gouvernement de transition puisse reprendre ses activités illégaux et que la date des élections, de l'élection présidentielle du 11 octobre soit maintenue. Et surtout sur un point sur lequel les représentants de ces OSC, mais aussi les représentants du CNT n'ont pas transigé du tout, c'est la question du RSP. Donc ils exigent la dissolution aussi tôt que possible. Et ils ont demandé également à ce que le président Michel Kafando et le premier ministre Yacouba Isaac Zida soient présentés, que l'on sache qu'ils soient libres et que rien ne leur est arrivé. Et ils affirment être venus ici pas pour négocier ces points-là. Ils sont venus tenir les présidents Yahya Boni et Macky Sall informés donc de ce qu'ils attendent. Et ils disent qu'ils ne vont vraiment pas transiger là-dessus. Et ils attendent de voir ce que. On attend tous de voir ici comment les choses vont se dérouler, surtout que la résistance continue de s'organiser partout dans le pays, un peu plus qu'à Ouagadougou, où le calme est un peu revenu dans la capitale après 48 heures de heure. Mais il faut dire que les jeunes continuent de s'organiser, et même sur les routes qui mènent à Ouagadougou, le quartier se trouve la présence du FASO. Il faut dire que les routes, les principales artères sont parées des morceaux de troncs d'arbres, des morceaux de branches, mais aussi avec des pneus brûlés, des briques, un peu, j'allais dire des briques à bac, juste pour bloquer les voies, pour empêcher les militaires du RSP dans leur pick-up de pouvoir passer, parce que ces derniers, quand ils passent, ils tirent à balles réelles. Nous ont montré le bruit. Et donc, voici comment ils essayent de se protéger dans les différentes rues à travers le centre-ville et aussi dans les quartiers périphériques. Donc, en ce moment, tout le monde attend de voir ce qui va sortir de ces conciliabules entre les deux présidents médiateurs, mais avec les représentants du CNT et les OSC qui, ici, attendent beaucoup, beaucoup de cette rencontre.
Voilà, c'était donc Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou.
Mohamed Ibn Chamba, c'est le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique. Il est aussi l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Burkina. À la réunion du GISAT, groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition, Chamba se disait qu'en Afrique, les lendemains d'élections sont porteurs de dangers, donc il faut savoir prévenir en adoptant des règles de jeu acceptées par tous. Zoumana Wonogo lui a demandé son avis sur le coup d'état surprise au Burkina.
La position de la CEDEAO, Union africaine et Nations unies est très claire. Nous ne pouvons pas accepter un coup d'État. La CEDEAO, Union africaine, eux, ils ont une tolérance zéro pour des coups d'État.
Et nous, Nations Unies, nous travaillons vraiment étroitement avec ces deux institutions-là en Afrique pour un établissement de bonne gouvernance de la démocratie. Comme la situation que se trouve aujourd'hui, c'est un cas d'un plein coup d'État, il faut que rapidement on discute, s'asseoir avec le militaire, voir comment nous pouvons, dans un délai très très court, rétablir la transition et continuer de travailler pour des élections qui étaient prévues.
Qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour vous?
Un coup d'État, une situation où c'est le militaire qui gère, c'est pas acceptable pour le CDAO, non plus pour l'Union africaine. Donc, nous, aux Nations Unies, nous soutenons ces deux organisations-là pour la bonne gouvernance, le respect des droits humains, le respect de la démocratie en Afrique.
Mohamed Chambas, représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Dans le reste de l'actualité, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, une manifestation a été violemment dispersée par la police à Lubumbashi. Les protestataires, au nombre de 400 environ, s'opposaient à un report de la présidentielle de 2016. Deux manifestants ont été interpellés, selon un journaliste de l'AFP, et un journaliste aurait également été arrêté.
Au Cameroun, trois militants associatifs pour l'alternance politique et un journaliste ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après leur arrestation. En revanche, cinq autres activistes arrêtés le même jour restaient en détention ce vendredi.
Accord sur la crise libyenne, le Parlement, reconnu par la communauté internationale, s'est enfin entendu sur le projet d'accord présenté par l'ONU. Un texte visant à former un gouvernement d'unité nationale. Les pourparlers de paix vont donc pouvoir reprendre, annonce l'émissaire de l'ONU pour la Libye.
Crise migratoire en Europe, le Premier ministre croate Zoran Milanovic a affirmé que son pays ne peut pas et en fait ne va pas fermer ses frontières. Cependant, la Croatie, dit-il, enverra les migrants vers la Hongrie. Cette semaine, plus de 11 000 migrants sont arrivés en Croatie, provoquant la fermeture jeudi soir de la frontière avec la Serbie. Dans une déclaration ce vendredi, un porte-parole du HCR appelle les pays membres de l'Union européenne à adopter des mesures concertées afin de faire face à la crise.
Préoccupé par le renforcement de la présence militaire russe en Syrie, les États-Unis disent envisager des pourparlers directs avec la Russie. Lionel Gaïma.
Selon le secrétaire d'État John Kerry, le président Barack Obama estime que ces discussions avec Moscou sont importantes, tandis que Washington et ses alliés cherchent à résoudre la crise en Syrie, qui a créé un exode massif vers l'Europe. Au Pentagone, des responsables ont indiqué que le secrétaire à la Défense, Ash Carter, avait eu une conversation constructive sur la Syrie vendredi avec le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Pour le chef du Pentagone, vaincre les militants du groupe État islamique en Syrie est une priorité absolue. Mais cet objectif doit être accompagné d'efforts en vue d'une transition politique à Damas. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré lors d'un appel téléphonique d'une heure vendredi que les deux chefs d'État de la Défense ont discuté de la situation au Moyen-Orient en général et en Syrie et en Irak en particulier, en mettant l'accent sur la nécessité d'une coordination des efforts bilatéraux et multilatéraux pour lutter contre le terrorisme international.
Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra à Moscou la semaine prochaine où il prendra part à l'inauguration de la grande mosquée de Moscou et rencontrera Vladimir Poutine. C'est du moins ce qu'ont annoncé les autorités palestiniennes citées par l'AFP. La grande mosquée de Moscou, présentée comme la plus grande d'Europe, ouvrira mercredi après 4 années de travaux. La Russie compte quelques 20 millions de musulmans, dont la plupart habitent dans des régions historiquement musulmanes. Il faut dire aussi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rendra lui aussi la semaine prochaine en Russie. Il discutera avec Vladimir Poutine.
L'Union européenne parlera d'une seule voix lors de la conférence de Paris sur le climat. L'accord conclu après une réunion de 28 ministres de l'environnement à Bruxelles.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Burundi.
Le quartier de Mutakura, au nord de la capitale, est bouclé depuis mercredi soir. Personne n'entre ni ne sort de cette zone contestataire du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Même les élèves ne sont pas partis à l'école. Entre-temps, 4 corps ont été déterrés hier à Maramvia, près de l'aéroport de Bujumbura. Dans cette capitale où la peur s'empare des habitants après 16 heures GMT, au moins 10 corps ont été retrouvés depuis lundi. Christophe Kourounziza fait le point.
À la station Delta, juste sur la route nationale numéro 9 qui va vers le nord-ouest du pays, séparant les quartiers Mutakura et Chibitoke, des dizaines de jeunes sont assis, parmi eux des conducteurs de taxis, vélo et moto. Depuis mercredi soir, ils dorment à la belle étoile. Certains ne connaissent pas les nouvelles de leur famille. Depuis les îles nourries d'il y a 2 jours, la police et l'armée ceinturent le quartier de Mutakura. Les boutiques sont fermées. Même les parents qui voulaient conduire leurs enfants à l'école en ont été empêchés. Les fonctionnaires ne se sont pas rendus au travail. La police affirme qu'elle est à la recherche des personnes qui ont tiré et lancé des grenades sur un véhicule des policiers mercredi soir. Le porte-parole de la police indique que les forces de l'ordre sont à la recherche de ces fauteurs de troubles. Depuis lundi, au moins 10 corps ont été retrouvés à Bujumbura et dans d'autres endroits du pays. Depuis 5 mois, des assassinats ciblés de personnalités politiques et militaires suivis d'enlèvements de jeunes sont observés dans de nombreuses circonscriptions du pays. La communauté internationale appelle à la retenue. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le gouvernement camerounais accuse Amnesty International de mauvaise foi. Selon le ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma Bakari, le dernier rapport de l'organisation internationale faisant état d'abus des militaires camerounais sur les populations civiles et certains membres de Boko Haram est exagéré et dans une certaine mesure erroné. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Le ministre camerounais de la communication rejette en bloc les accusations de Amnesty International sur les militaires camerounais. Selon Issa Chiruma Bakari, cette ONG est réputée pour sa langue dure envers les États.
Nous parlons des faits sans fard et nous disons avec tout le respect la considération que nous avons pour Amnesty International, nous disons que là vous exagérez. Parce que nos militaires, avant d'aller au front, ils reçoivent d'abord une éducation, ils reçoivent des cours sur la protection des droits de l'homme. Tous nos militaires, ils gonflent les traits pour pousser les gouvernements peut-être à faire toujours mieux.
Issa Chiruma poursuit en indiquant que le Cameroun respecte ses lois et les conventions internationales qu'il a volontairement paraphées.
L'État du Cameroun s'est doté d'instruments de droit au plan interne et qu'il a librement ratifié tous les accords, conventions et traités internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires et aux droits humains. Je voudrais attirer l'attention de nos interlocuteurs, soucieux de la protection des droits humains, au bénéfice des bandes criminelles, sans foi ni loi. Boko Haram est une organisation terroriste. Alors, est-ce que Amnesty International a été voir Chekaou ou bien les gens de Boko Haram pour leur dire « Attention, ce que vous faites là, ce n'est pas bien, arrêtez. Égorger les gens, décapiter, ce n'est pas bien. Remettre en cause les États dans leur existence, dans leur organisation, ce n'est pas bien. »
Dans son rapport publié mercredi dernier, Amnesty International déclare que 1000 personnes soupçonnées proches à Boko Haram sont détenues dans des conditions inhumaines. 25 d'entre eux sont mortes. 130 jeunes arrêtés par les militaires sont portés disparus. Et environ 400 personnes sont mortes au Cameroun du fait de la lutte contre Boko Haram. Moki Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
Avec plus de 442 000 réfugiés arrivés par la Méditerranée cette année, 2 921 morts et quelque 4 000 personnes débarquent quotidiennement sur les îles grecques. Le HCR appelle l'Union européenne à l'installation immédiate de centres de réception et d'enregistrement. Nathalie Barge a joint à Athènes Kéti Kezaioglou, la porte-parole du HCR pour la Grèce, soulignant que ces îles ne sont pas du tout équipés pour recevoir autant de monde.
En Grèce, il y a plus de 4000 réfugiés qui arrivent par jour. La plupart viennent de Syrie et, ou d'Afghanistan. Ils partent de leur pays, de la guerre et de la persécution. Ils sont désespérés, il n'y a pas de voie légale. Ils prennent des petites embarcations irrégulières à partir de la Turquie en risquant leur vie. Et jusqu'à maintenant, nous avons eu beaucoup de morts parce que c'est une voie très dangereuse. La dernière semaine, il y a eu 38 morts dans 4 naufrages où il y a eu beaucoup d'enfants et des bébés qui ont péri.
Est-ce qu'il y en a également qui arrivent par la mer Méditerranée ?
Oui, mais la Grèce, en ce moment, c'est le pays qui reçoit la plupart des réfugiés qui viennent de façon irrégulière. Jusqu'à maintenant, il y a eu 319 000 personnes dès le début de l'année, en comparaison avec l'année passée, qui a eu 43 000 seulement.
Dans quelles conditions arrivent ces réfugiés ?
Les conditions, premièrement, c'est le risque du voyage. Deuxièmement, ils arrivent dans des petites îles. Par exemple, l'île de Lesbos a reçu 165 000 réfugiés dès le début de l'année. Ils arrivent dans des îles qui ne sont pas prêtes à les recevoir du tout. Ils n'ont pas des structures de réception. Ils n'ont pas la capacité d'enregistrer ce monde-là. Les gens sont coincés sur les îles, ils ne peuvent pas partir. Alors il y a des tensions avec la police parce que les gens sont désespérés, ils sont frustrés. Par exemple, l'autre jour, à cause de la façon d'enregistrement qui était assez lent, il y a eu quelques tensions avec la police. La police était obligée de mettre des tirs gaz.
Est-ce qu'il y a beaucoup de familles dans ces réfugiés ? Et si oui, est-ce que l'on se charge de bien prendre soin, notamment des familles et des enfants ?
Il y a beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Et dans les îles, c'est très difficile de prendre charge de ces gens. Le HCR est là. Nous avons une présence sur toutes ces îles pour aider les autorités à faire face à cet afflux. Nous faisons une identification des cas vulnérables. Nous essayons d'aider les autorités à faciliter l'enregistrement.
Voilà, c'était donc Kéti Kezaioglou, porte-parole du HCR à Athènes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La Banque centrale américaine a annoncé qu'elle laissait ses taux d'intérêt inchangés pour le moment. La décision tant attendue intervient alors que la Fed essaie d'équilibrer le marché du travail avec en ligne de mire l'impact du ralentissement de la croissance mondiale. Les marchés financiers craignent une plus grande volatilité dans l'économie. Jean-Roger Bion.
Le conclave des responsables de la Réserve fédérale n'a finalement fait bouger aucune ligne dans la politique monétaire. Pour Janet Yellen, la présidente de la Fed, en dépit des signaux positifs de l'économie américaine, des questions demeurent sur l'incidence qu'aura le ralentissement de la croissance en Chine sur la plus grande économie du monde.
À la lumière des récents développements et les conséquences sur les marchés financiers, nous voulons prendre un peu plus de temps pour évaluer les éventuels impacts sur les États-Unis.
Wall Street a fini incertaine jeudi, entre soulagement immédiat et inquiétude, après la décision de la Banque centrale américaine. Pour l'économiste Gus Faucher de PNC Financial, les marchés n'aiment pas l'incertitude.
C'est l'incertitude sur la situation en Chine, en Europe, et donc les marchés sont fragiles. Et je pense que les interrogations sur ce que la Fed va décider a exacerbé cela.
Les analystes estiment que la volatilité du marché va se poursuivre tant qu'il y aura du suspense, mais d'autres croient que la Fed a manqué une occasion de revenir à la normalité en matière de politique monétaire. Axel Merck est expert en investissement.
Souvenez-vous, une économie n'a pas besoin de taux d'intérêt de 0%, il faut un taux d'intérêt approprié qui dépend du marché et non celui fixé par une banque centrale qui achète des actifs dans le monde entier.
Mais si l'on en croit Janet Yellen, la Fed n'a pas exclu une hausse de taux cette année, peut-être dès sa prochaine réunion.
Octobre reste une possibilité.
Certains croient que la Fed devrait attendre au moins l'année prochaine avant de relever les taux directeurs, ou tout au moins jusqu'à ce que l'inflation se rapproche du taux cible de la Fed de 2%. Mais Yellen affirme que la majorité des membres votants croient que la première hausse des taux en près de 10 ans se produira avant la fin de l'année.
This is the voice of America. Washington, D.C.
On revient sur le Burkina Faso et le coup d'État. Alors que le régiment de sécurité présidentielle garde la mainmise sur le pays ce vendredi, il n'est pas confirmé, contrairement aux déclarations du respect, que toute l'armée burkinabé se soit ralliée à leur coup d'État. Pourtant, vu la puissance de la garde présidentielle, on voit mal qui pourrait s'opposer à elle. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Serge Théophile Balima, professeur à l'université de Ouagadougou.
Lorsqu'on parle de la situation au Burkina, ce n'est pas l'armée en tant que telle, puisque dans le système de pérennisation du pouvoir défu, il s'est agi d'affaiblir en réalité la composante essentielle de l'armée pour favoriser une composante qu'on appelle le régiment de sécurité présidentielle. Évidemment, ce régiment a tous les moyens, il est suréquipé, bien formé avec des élites, des intellectuels tout à fait respectables qui ont été formés dans les meilleures écoles. Ils ont beaucoup de compétences, c'est vrai, on le reconnaît, mais qui étaient comme une armée à part. Bon, et aujourd'hui, c'est cette armée à part en fait qui intervient dans le système. Mais les autres composantes de l'armée ne sont pas en réalité des parties prenantes, même si officiellement on déclare qu'il y a eu un consensus avec les autres garnisons. Ça ne peut être qu'un consensus de façade. Moi, je pense que la situation n'est pas totalement réglée parce qu'il faut que des négociations sérieuses se poursuivent et en même temps, il y a des opérations en ville qui tendent à dissuader évidemment les citoyens qui veulent se mobiliser, se rassembler pour contester la prise du pouvoir par la force. Bon, mais il est évident qu'avec 1300 soldats d'élite, c'est difficile pendant longtemps de maintenir la population à chaos. Surtout qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de régiment de sécurité présidentielle. Si bien que dans les autres villes, la mobilisation est assez forte et il n'y a pas de contre-manifestation en tant que telle. Donc finalement, ça va créer, en tout cas à court terme, une situation plus que complexe au Burkina Faso.
Avez-vous été surpris par cette prise de pouvoir du général Gilbert Diendéré?
Bon, personnellement, je n'ai pas été surpris parce que, vous savez, après les longs règnes, il y a toujours des réseaux, un système de fidélité, de reconnaissance, c'est un ensemble de données qui font que les gens ont des ancrages sociaux, ancrages financiers, ancrages matériels. Bon, c'est assez difficile en quelques mois d'affaiblir toutes les racines du système comparé. C'était vraiment difficile. Donc je ne suis pas surpris parce que il y a aussi un jeu d'intérêt. Parce que à l'heure actuelle, si on doit déclencher toutes les procédures judiciaires, si l'on doit mettre en place un système de reddition des comptes, évidemment, il y a des puissants du jour qui vont devenir des humiliés, des faibles, et tout ça entraîne un cocktail assez explosif.
Voilà, c'était Serge Théophile Balima, professeur à l'université de Ouagadougou. Cette émission touche à sa fin. Georges Léonard Sagnot était à la production, Tian Wan à la console technique, au micro Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.